Ben voilà, nous voilà au début de notre dernière séquence du colloque avec trois plages et donc cette première session bien homogène. Donc avec cette première session sur les politiques publiques, avec un premier travail sur la mixité, la déségrégation, la correction de la ségrégation au niveau des collèges, avec deux cas locaux qui vont être comparés par Manon Ratel et Romane Vareille. Et puis Fabrice Dume qui parlera d'un thème pour lequel il a déjà fait un rapport assez riche qui est en ligne, que vous avez peut-être vu, sur la reconnaissance et l'action concernant la discrimination raciale et le racisme, la lutte contre la discrimination raciale et le racisme. Fabrice Dume est donc le maître d'œuvre de ce colloque, vous le savez, et il est le co-responsable avec Marguerite Cognier du Master Pro Migration Internationale Relations Interethniques de cette université, dont vous avez vu le travail des jeunes diplômés pour une première enquête exploratoire sur la lutte, la reconnaissance de la nécessité de lutter contre le racisme et donc la conscientisation à ce sujet des opérateurs, acteurs de l'université Paris Diderot. Il n'est pas là, mais il va. Ah ben si, il est là. Voilà, je pensais qu'on t'attendait. Nous pouvons commencer. Commençons avec un quart d'heure de retard. Donc nous aurons un quart d'heure de retard à l'arrivée, parce que trois quarts d'heure, c'est vraiment ce qu'il nous faut pour traiter ces deux questions. Donc chacun va parler pendant un quart d'heure environ, on enchaînera si vous voulez les exposés, de sorte à dégager un quart d'heure de discussion à la suite des deux exposés, hein, d'accord ? Voilà, je donne la parole à celui qui commence, Romane. Comment merci on fait pour essayer
d'avoir... Et merci aux organisateurs de cet événement et merci d'avoir accepté notre proposition. Notre intervention propose une analyse comparée de deux cas de resectorisation d'établissements du secondaire, l'un situé dans la ville de Montpellier, l'autre dans la ville de Nîmes, qui est voisine dans le sud de la France. Des resectorisations consécutives à l'annonce de la réforme dite pour la mixité sociale et scolaire lancée par le gouvernement français en 2015. Alors le choix de ces deux établissements est lié au fait que donc ils ont été confrontés à la même décision de fermeture administrative, mais aussi parce qu'ils partagent des caractéristiques communes, notamment parce qu'ils se situent dans un contexte social particulier sur lequel nous reviendrons. Alors que les issues de ces réformes, dans les deux cas, divergent et nous allons le développer. Notre objet se concentrera donc sur les réactions à cette réforme et nous essaierons de croiser sociologie des mobilisations et sociologie de l'action publique à partir de deux cas d'études récents, quasi contemporains, qui questionnent plus largement le pouvoir d'action des habitants face aux situations de ségrégation scolaire. Il s'agira donc de revenir sur les différentes résistances qui sont apparues. À Montpellier, la mobilisation d'un collectif de parents d'élèves a reconfiguré le projet de réforme, alors qu'à Nîmes, aucun obstacle majeur n'a empêché la fermeture, et c'est plutôt du côté des collèges, entre guillemets, d'accueil, situés en centre-ville, que les tentatives d'opposition ont été les plus fortes. L'intrigue initiale, donc, dont nous souhaiterons discuter avec vous ici, revient à comprendre pourquoi, dans un cas, l'annonce de la fermeture s'est heurtée à une forte mobilisation locale, et pas dans l'autre. À partir de nos terrains de thèse respectifs, nous avons cherché à identifier les facteurs qui ont participé à l'issue de ces deux cas. Pour y répondre, nous reviendrons sur la chronologie des faits en nous arrêtant sur les différentes configurations politiques qui ont déterminé le parcours des réformes. Je vais donc, dans un premier temps, revenir sur la situation du collège et du quartier de Montpellier, après quoi Manon nous montrera les résultats sur le cas de Nîmes. En novembre 2015, Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre de l'Éducation nationale, annonce l'expérimentation à venir d'outils destinés à, je cite, « améliorer la mixité scolaire dans les collèges ghettos de 17 départements pilotes choisis pour la présence donc de collèges marqués par une forte homogénéité sociale ». L'annonce officielle du projet insiste sur la volonté de territorialiser la réforme dans le sens où ce sont les départements qui sont chargés de trouver des solutions pour permettre aux parents d'élèves d'orienter les enfants vers l'établissement de leur choix, et non plus à partir de critères subis. L'Hérault, le département de l'Hérault, est alors intégré au dispositif, considérant que le collège que nous avons étudié souffre d'une mauvaise réputation qui provoque des stratégies d'évitement et, in fine, donne lieu à une situation d'isolement du collège. Pour situer le contexte social, ce quartier, que certains d'entre vous reconnaîtront peut-être, puisqu'il a déjà été traité médiatiquement, mais aussi scientifiquement, est situé donc à l'ouest de Montpellier et est classé comme quartier prioritaire de la politique de la ville. Avec 5700 habitants, il est marqué par un taux d'emploi inférieur à la moyenne de la ville, avec 35% d'emplois, dont 25% de précaires, pour un taux de 58% des habitants vivant sous le seuil de pauvreté. Notons au passage, et nous y reviendrons, qu'avant ce moment de la mixité scolaire, ce quartier avait déjà fait l'objet d'une forte mobilisation locale, notamment incarnée par le collectif Justice pour le Petit Bar, dans le cadre du Programme national de rénovation urbaine de 2003. Pour situer maintenant le contexte scolaire, il faut savoir que ce quartier comprend deux écoles classées REP+, une école primaire et une école maternelle. Le collège en question est marqué, lui, par un sous-effectif criant, avec en 2015 300 inscrits pour une capacité de 800. Ces chiffres sont le résultat, je le disais, d'une dégradation de la réputation du collège qui s'est traduite par une multiplication des stratégies d'évitement et ont donc produit une forte homogénéité sociale, si bien que l'établissement a été couramment nommé comme le collège des Marocains. Enfin, dernier point de contextualisation, un autre collège est situé, lui, à 15 minutes environ en transport commun du quartier et jouit, lui, cette fois, d'une bonne réputation qui lui permet un remplissage régulier des effectifs. Pour revenir aux enjeux de la réforme, en 2015 donc, l'équipe enseignante du collège et les parents d'élèves apprennent que le levier privilégié par le gouvernement pour développer la mixité scolaire est celui de la fermeture définitive du collège. Cette première annonce donne rapidement lieu à des premiers rassemblements, d'abord sous la forme de réunions de plusieurs mères d'élèves, qui seront plus tard appelées les mères courage, et je renvoie notamment aux travaux d'Anne-Marie Fillot. Pour retracer la chronologie de ces réactions à la réforme, il semble important de rappeler que la temporalité est donc celle du lendemain des attentats de janvier 2015, suite à quoi le gouvernement lançait une opération de, ouvrez les guillemets, grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République, qui s'articulait principalement autour de la notion de mixité sociale et scolaire. Ainsi se dessinent plus ou moins les prémices d'un contexte qui va s'avérer favorable à la réception positive des revendications du collectif, des parents d'élèves, dont le mot d'ordre insiste lui aussi sur la notion de mixité scolaire. Dès le départ, le collectif s'oppose strictement à la nouvelle carte scolaire qui prévoit la fermeture du collège et cherche d'abord à interpeller la mairie locale. Mais face à l'absence de soutien des élus et aux déclarations du maire qui renvoie la balle vers la responsabilité du département, les militantes vont se tourner vers une stratégie plus nationale. On assiste alors à une logique d'autonomisation ou d'empowerment qui fait apparaître une filiation avec les mobilisations antérieures du quartier sur d'autres questions, je le disais, notamment autour de la rénovation urbaine, ou plus anciennement avec des mouvements contre la double peine, avec l'antenne du mouvement de l'immigration et des banlieues. Cette transmission se traduit non seulement par l'utilisation de ressources matérielles, avec le prêt de locaux pour les réunions, concrètement, mais aussi par la reprise de répertoire d'actions, puisque les premières grosses actions consistent à bloquer l'accès aux écoles du quartier, mais aussi par une circulation des individus qui viennent partager leur expertise autour des moyens de mobilisation. On peut donc parler, comme le suggèrent Isabelle Berry, Chikaoui et Lucine Medina, de transmission de savoir-faire militant hérité de l'histoire politique du quartier. Par ailleurs, le mouvement de mobilisation s'articule à l'intérêt et à l'investissement de plusieurs chercheurs qui viennent renforcer la connaissance des enjeux par les militants dans ce qui peut apparaître comme une logique d'intérêt réciproque puisque la situation du quartier constitue un cas d'étude de ségrégation scolaire et de réflexion autour des solutions. En témoigne l'intervention du collectif des parents d'élèves dans différents colloques universitaires. À ces facteurs s'ajoutent les ressources dont disposent les protagonistes du mouvement, parmi lesquels l'usage d'une communication qui s'est avérée efficace, notamment via l'envoi de nombreuses lettres vers les autres parents d'élèves du quartier, et une occupation de l'espace qui va provoquer un fort écho médiatique illustré par l'émission de journalistes locaux d'abord, puis nationaux, avec un certain suivi et la publication de plusieurs articles jusqu'à aujourd'hui encore. Cette capacité de mobilisation, elle peut être mise en lien avec le profil des acteurs, qu'on n'aura pas forcément le temps d'évoquer ici, qui sont pour la plupart diplômés au sein de ce collectif, et à leur expérience personnelle, puisque dans les différentes interventions médiatiques, ces militantes expliquent leur intérêt pour la mixité scolaire par leur propre parcours scolaire, qui a notamment eu lieu ailleurs qu'au quartier concerné. Face à l'ampleur de cette mobilisation, donc, l'idée de la fermeture du collège va être abandonnée au profit d'un autre levier de notre levier de mixité scolaire, celui de la rénovation du programme d'enseignement, avec notamment l'instauration des classes internationales. Je laisse la parole à Manon pour évoquer le cas de Nîmes.
Bonjour. Donc je vais présenter ce cas en trois points, le contexte, le conflit et les retours que j'ai pu en faire à ce jour. Donc à la différence de Montpellier, qui peut présenter des quartiers plus ou moins hétérogènes, Nîmes est un territoire où la mixité sociale est faible et certains établissements scolaires sont de fait très ségrégés. Cette ségrégation, elle est double puisqu'elle concentre des situations de richesse, de très forte richesse d'une part et de pauvreté de l'autre. L'entre-soi existe par les inégalités sur le territoire, mais il est renforcé par le jeu des stratégies de contournement, donc la scolarisation dans le privé et les dérogations, sachant que la scolarisation dans le privé à Nîmes, elle est de plus de 10% supérieure à la moyenne nationale. Donc, en revanche, comme à Montpellier, un établissement à Nîmes a vu sa fréquentation sensiblement diminuer au tournant des années 2010, au point qu'à la rentrée 2017, il comptait 260 élèves pour un effectif nominal de 800. C'est pourquoi en décembre 2016, l'annonce du projet de fermeture de cet établissement a été faite par voie de presse, après de longues années de réflexion et de tractation politique. Donc les habitants du quartier concerné avaient déjà fait plusieurs fois l'objet de promesses politiques qui étaient restées vaines. Donc cette décision a été actée lors du vote du budget du département en novembre 2017, faisant suite au vote consultatif de la nouvelle carte scolaire en CDEN un mois avant. La fermeture a finalement été effective lors de cette rentrée 2018, donc il y a un mois, ce qui s'est traduit par un déplacement des collégiens d'un établissement à l'autre selon un effet domino. Cette manœuvre s'opère selon un impératif de proximité, mais elle tient également en compte de l'IPS des foyers, et donc plus généralement des quartiers qui sont homogènes. Les 260 anciens élèves du collège, qui a fermé, habitent deux quartiers situés à l'ouest de la ville. C'est donc un territoire périurbain qui est également socialement très défavorisé. Donc là, quand je parle socialement défavorisé, je parle du niveau de vie, des revenus, etc. Le taux de pauvreté y est de 68% contre 28% dans la moyenne dans la ville. Environ la moitié de ces collégiens ont été affectés dans un établissement labellisé REP, plus proche du centre-ville, et l'autre moitié a été affectée dans un établissement très favorisé du centre-ville. Pour illustrer cet écart du collège fermé, donc le collège fermé est de 65 d'IPS, le premier établissement d'accueil est de 76 et le dernier établissement d'accueil est de 100. Et 40 autres élèves ont été prioritaires d'admission d'établissements privés. Après ces éléments de contextualisation, donc je vais revenir sur les débuts du conflit, il faut savoir que la trajectoire politique de la ville a changé sur les deux dernières décennies. Elle est passée du Parti communiste à droite au tournant des années 2000 et elle est encore aujourd'hui. Et la présence de l'extrême droite est très forte dans le département du Gard. À ce titre, la configuration politique dans laquelle a évolué la réforme était particulière, puisque le département à l'initiative est à gauche, l'IPS, mais l'Assemblée n'est pas majoritairement. La ville est à droite et l'agglo est au centre. Et tout cela sont des entités concernées par le processus de réforme de la carte scolaire. Ainsi, la question de la mixité sociale et scolaire a fait figure de ce qu'on peut appeler, ce que j'ai appelé en tout cas pour mon terrain, un objet frontière. C'est-à-dire qu'il y a un consensus flou qui a pu être obtenu grâce à la pluralité des définitions et des finalités que la notion pouvait recouvrir aux yeux des acteurs. Donc là, je fais référence à la définition de Starr et Griesmer sur la flexibilité de l'objet que j'évoquerai aussi en conclusion. Cette restructuration de la carte scolaire, elle a tout de même généré du débat et des tensions en interne dans toutes les entités politiques concernées. Mais elle a également créé des crispations auprès des personnels enseignants, des parents d'élèves et par voie de conséquence des enfants. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à percevoir sur mon terrain, dont la grille de lecture était pour moi essentiellement l'appartenance sociale, une nécessité d'aborder également la question raciale, parce que considérée comme problématique et explicative par les acteurs en question, en fait. Donc je ne suis pas non plus une spécialiste de la question, mais j'ai été confrontée à elle de fait. Dans mon observation, je parle de catégories de parents d'élèves ou de professeurs en tant que communauté d'acteurs, puisqu'il s'agit de différentes personnes qui ont été unies par des liens d'intérêt ou des opinions à partir de l'annonce de la réforme de la carte scolaire. Ces groupes sont dotés a priori de compétences et de degrés de politisation inégales à partir desquels ils ont mobilisé des répertoires d'actions plus ou moins efficaces. Donc je fais référence à ce que disait Romain sur la question du mouvement à Montpellier. Et les formes de mobilisation sont essentielles dans l'aboutissement des demandes publiques. Donc ce clivage autour de la carte scolaire, il s'est construit en plusieurs temps, au cours desquels les tensions se sont renforcées. D'abord autour de la communication institutionnelle, sur la base de laquelle beaucoup d'inquiétudes sont faites sentir par manque d'informations, puis de l'entretien par les médias locaux ou les réseaux sociaux notamment, des tensions entre les différentes communautés d'acteurs. Donc vulgairement, je pourrais dire ici qu'il y avait les partisans et les opposants, même si avec un peu plus de temps, c'est beaucoup plus fin. Bien sûr, il y avait tout un panel d'opinions. Donc l'annonce de la fermeture du collège n'avait pas suscité de forts mouvements sociaux ni d'opposition virulente de la part du public directement concerné par la fermeture dans le quartier. Il n'y a pas eu de manifestation, de pétition ou de blocage. En revanche, il y a eu un groupe de soutien sur Facebook d'une vingtaine de personnes, mais qui a vite cessé son activité. Donc en revanche, des mois après l'annonce de la fermeture, au moment où la nouvelle sectorisation de la ville a été rendue publique, et alors même que ça paraissait évident que ce public devait être accueilli dans notre établissement, un collège particulièrement du centre-ville s'est mobilisé. Ces mobilisations ont pris la forme d'une opération collège mort, soutenue par les professeurs, d'articles dans la presse et de pressing sur les mailing lists des élus politiques. Lors des réunions publiques, des concertations sur les secteurs, l'établissement très favorisé qui avait initié l'opération collège mort a été le lieu d'un vif débat dans lequel les propos, des propos culturalistes, discriminants ont été tenus au point que le DASEN a fait un rappel à l'ordre. Par exemple, un professeur dit « Moi, j'ai fait mon temps, j'ai assez donné un REP+, » en parlant du public qu'il s'apprêtait à accueillir, en fait. C'est d'ailleurs pourquoi je parlais de label REP+, parce que finalement, ça s'apparente un peu à un stigmate dans les trajectoires scolaires. En général, on dit ben, « j'étais en REP ». C'est ça, ça revient dans à peu près tous mes terrains, en fait. Dans le cadre des réunions en comité plus restreint aux opposants de la réforme, les parents d'élèves se déclaraient très majoritairement favorables à la mixité. Donc là, c'est un peu comme la question dont on parlait hier de l'antiracisme, on est tous plus ou moins d'accord. Il y a très peu d'opposition ferme. Mais en revanche, sur le motif du déracinement des enfants causé par la réforme, les parents annoncent préférer déménager que subir les effets de cette réforme. Donc c'est un prétexte qui ne tient plus. Ces positions ont été relayées dans la presse et exacerbées par les petites phrases et ont généré mécaniquement des réactions de colère de la part des parents du quartier qui entendent ou qui se voient rapporter des propos hostiles ou qui considèrent comme hostiles à leur égard. Et donc ce qui a renforcé les tensions sur les réseaux sociaux notamment, où on peut lire une mère, par exemple, parlant de son enfant, écrit « Si vous avez peur de nos enfants, vous n'avez qu'à aller dans le privé ». Et donc là, cette remarque précise, elle fait référence à une rumeur, qui fondée ou non, qui a circulé suffisamment pour que j'entende à plusieurs reprises dans les concertations, selon laquelle des jeunes filles avaient été inscrites à des sports de combat dans la perspective de l'arrivée du nouveau public dans l'établissement. Donc voilà, on peut parler d'un racisme voilà, latent qui était présent dans l'ensemble des milieux que j'ai observés, allant d'un racisme identitaire, c'est-à-dire très fort sur la question, mettons, du halal dans les cantines, à une sorte de racisme bienveillant, culturaliste, en parlant des coutumes, des trucs sur le... Enfin, je ne reviendrai pas là-dessus, je pense que vous faites une idée. Donc ça, c'est pour ce qui est des tensions. Et maintenant, pour conclure, je dirais d'abord qu'en dehors du cadre officiel, au cours de mes entretiens et observations, je notais que finalement, de nombreux acteurs institutionnels opèrent un lien étroit entre la nécessité de mise en œuvre du projet et les attentats qui sont survenus en 2015. C'est-à-dire que la justification de la nouvelle carte scolaire, elle est liée, intramuros, à la question de la radicalisation religieuse. Et ce qui m'a frappé vis-à-vis de mon travail, c'est que j'ai réalisé que plus tard, en relisant mes notes de terrain, avant de revenir sur notre entretien, que ce thème était récurrent, en fait. Dans mes prises de notes, c'était un thème récurrent et je ne l'avais même pas remarqué au moment, enfin, quand j'étais sur le terrain. Et finalement, cette ségrégation qui a pourtant été structurée par l'action étatique et politique menée sur du long terme, donc ça fait 40 ans que les politiques de la ville ont laissé un peu à l'abandon le quartier. Et là, je renvoie donc par les maires, les bailleurs successifs, je renvoie aux articles de Renaud Epstein. Ils considèrent que ce n'est pas forcément pour le problème de l'enjeu social que ça représente, mais c'est l'enjeu sécuritaire, en fait. Et le terme de poudrière, par exemple, il est très récurrent aussi pour qualifier le quartier ou du moins la menace qu'il peut représenter. Et c'est là que la notion d'objet frontière fait sens, parce que le consensus politique, il a pu être obtenu aussi, parce que des acteurs voyaient dans cette question, voilà, pas l'enjeu social, mais l'enjeu sécuritaire. Et c'est ce qui justifie, je termine, c'est ce qui justifie voilà, une intervention. Et sur ce point, des échanges avec les parents du quartier, ils ont très bien fait le lien, la corrélation entre l'intervention publique et qui, dans un quartier qui avait été à l'abandon, et voilà, Charlie Hebdo, la question de « Je suis Charlie », la minute de silence et la suspicion qui a monté, voilà. Donc pour finir, je dirais que cette concurrence qui se joue entre les établissements et les personnels qui les composent ont un effet persuasif sur les parents, qui viennent à choisir l'établissement sur le seul motif de son prestige supposé, ce qui implique des luttes pour conserver ces situations de privilège et des luttes contre l'arrivée d'un public qui mettrait en péril, selon eux, cette réputation. Et c'est en partie, à mon sens, la raison pour laquelle la lutte a été si vive de la part de l'établissement le plus favorisé du centre-ville parmi les collèges d'accueil. Et donc voilà, c'est une question que je souhaite explorer pour la suite pour mon terrain qui est loin d'être finie. Voilà, je vous remercie.
La parole à Fabrice Dume tout de suite, alors en enchaînant. Merci.
Merci. Alors moi je vais vous proposer un changement de cadre, puisque mon propos il va s'inscrire non pas à partir d'une enquête empirique de terrain particulière, même si de fait mon propos est construit aussi à travers plusieurs enquêtes empiriques antérieures, mais il va s'inscrire et se cantonner au niveau des politiques publiques institutionnelles, donc du niveau macro. Étant donné aussi, c'est un choix un petit peu stratégique dans le colloque, que la table ronde qui va suivre et la conférence de Marie McEndrew va nous emmener aussi du côté des politiques et de l'action publique, et donc d'autres niveaux d'interrogation. Mon cadrage sera aussi un peu plus serré sur la question de la discrimination et la manière dont la question de la discrimination, quel est son statut, au fond, pour le dire comme ça, dans la politique publique du ministère de l'Éducation nationale. Et je vais laisser de côté, du coup, des discussions un petit peu latérales qui seraient, par exemple, sur les politiques de ségrégation et leur lien avec cette problématisation en tant que telle. Alors, je voudrais repartir d'un texte que j'avais publié en 2010 dans la revue Migration Société, qui était intitulé « L'école face à la discrimination ethno-raciale, les logiques d'une inaction publique ». Je voudrais en actualiser le constat en se disant, depuis 2008 à peu près, qu'est-ce qu'il est, depuis 10 ans, voilà, qu'est-ce qu'il est advenu de cette question-là, et où est-ce qu'on en est de ce que je pensais identifier comme des logiques d'inaction publique à ce moment-là. Je voudrais terminer, en tout cas à travers ce cheminement-là, pour une interrogation montée un petit peu plus en généralité sur quelle est la nature des résistances, au fond, hein, sur quoi repose in fine, les résistances du ministère de l'Éducation nationale et plus largement de l'institution scolaire à ouvrir franchement la question des discriminations. Alors, mon premier point sera de revenir sur la question de l'inaction publique, et je vais vous dire ce que j'entends par là, pour ensuite aller regarder du côté un petit peu de l'évolution des changements institutionnels plus récents, et montrer en fait que à la fois il y a des incohérences, hein, c'est-à-dire que nous n'avons pas un cadre qui est clair et qui du coup génère un sentiment d'illisibilité politique sur quel est le message, quel est le problème et que s'agit-il de faire. Et puis je terminerai un petit peu sur cette question des obstacles en essayant de pointer le fait que, à mon sens, un des obstacles majeurs est à la fois très fluide et très dur, ce sont des peurs. Des peurs qui structurent ça, des peurs immenses, pour le dire comme ça. Alors, pour revenir à 2008, pourquoi 2008 ? C'est que c'est l'année de la mise à l'agenda formel du thème des discriminations dans un texte qui est la circulaire de rentrée du ministère de l'Éducation nationale. Alors, comme me le disait dans une enquête en 2015, les personnes qui produisent cette circulaire à la Direction générale de l'enseignement scolaire, c'est un texte qui est très regardé par les sociologues, hein, parce qu'elle est prise par les sociologues comme un bon indice de la politique publique, mais en réalité, si vous saviez comment ça se fabrique, hein, c'est un truc qui circule dans le ministère, chacun y saupoudre ses deux, trois idées du moment. Et puis, comme ça fait 10 pages et qu'il faut le ramener à une seule page, bon, voilà, ça forme une espèce de, comme dirait Casimir, de Gloubi-Boulga au bout du compte, dans lequel, finalement, on a des thèmes, etc., mais qui ne sont ni clairement hiérarchisés, ni clairement articulés, etc. Hein ? Alors, évidemment, une circulaire comme ça porte la trace de ce mode de fabrication, c'est-à-dire qu'on voit très clairement qu'il y a des priorités qui sont annoncées, mais en fait, elles sont tellement nombreuses, tellement inarticulées, que c'est en réalité pas des priorités politiques. Alors, dans cette logique-là, le terme d'inaction publique, je veux caractériser, si vous voulez, c'est le fait que on a à la fois quelque chose qui pourrait apparaître comme un nouveau problème scolaire, mais qui, en fait, qui plus que constituer un nouveau problème, sert à déproblématiser la discrimination en tant que telle. Et j'écrivais la chose de la manière suivante, je me cite, si vous m'excuserez, le terme d'inaction publique ne signifie pas l'absence totale d'actes, pratiques et discours, car elle n'est pas absence d'action, mais travail actif de configuration de l'ordre social pour faire comme si on agissait tout en déniant l'ordre du problème. Le terme qualifie donc une logique interne d'empêchement général à agir qui résulte moins d'une absence d'action que d'une ambivalence fondamentale à l'égard de cette question. Donc c'est cette proposition de lecture que je voudrais actualiser. En 2008, si je repars de là, le problème de fond, c'est qu'on a un discours sur l'objet de discrimination qui est en décalage à peu près total avec l'ordre sociologique du problème, hein, tel qu'on l'a travaillé depuis deux jours maintenant. Ce qui veut dire que la représentation de la politique publique est en fait organisée par une logique qu'on pourrait dire de dénégation. Et le discours de dénégation, c'est un peu un discours du « oui mais non », hein, c'est-à-dire « oui, c'est un problème grave et important, mais non, il n'y en a pas ici, pas chez nous, pas comme ça ». Voilà. Donc on constitue ou on fait mine de constituer une problématique d'importance politique tout en effaçant littéralement au fond sa réalité. Avec une particularité dans l'univers scolaire qu'il faut avoir en tête toujours, et pour ma part c'est un élément absolument structurant de cette affaire-là, c'est le rapport d'éducation ou le rapport d'enseignement. C'est pour que le maître apparaisse comme un sachant ou comme un savant dans l'espace académique, il faut présupposer que les élèves sont ignorants. Et ce rapport, il est absolument structurel, il est d'ailleurs littéralement le rapport qui institue l'école, mais il est, de mon point de vue, absolument structurant du coup de toutes les problématiques, y compris des autres rapports sociaux tels qu'ils se rejouent dans l'espace scolaire. Ça a au moins trois effets, si on tire les conséquences de l'effet de ce rapport d'éducation sur la situation. Première conséquence, c'est la dépossession vis-à-vis des élèves, par exemple, ou vis-à-vis des enseignants et enseignantes racisés, c'est la dépossession des savoirs d'expérience et des savoirs d'usage du système scolaire. Ils n'ont littéralement pas lieu d'être dans les interactions, et ça fait que l'institution, au fond, capte la représentation du problème des discriminations, entre guillemets, problème qui est évidemment remanié au profit de l'institution. Deuxième conséquence, c'est un assujettissement, vous retrouverez la trace de Foucault là-dedans, l'assujettissement de ces savoirs dans l'espace académique, et donc la minoration et la minorisation dans l'ordre des savoirs, qui ferait par exemple, et ça c'est un argument dans l'espace académique qui est beaucoup présent dans l'espace politique du ministère, qui est que ce serait en fait la question des discriminations, le thème serait une simple requalification subjective des inégalités sociales vécues, et que les inégalités sociales, elles, se fonderaient sur de vrais savoirs sociologiques. Troisième conséquence, c'est que ça encourage en pratique les agents, et y compris les agents du ministère, à des stratégies d'effacement des traces, de négation du réel, de requalification concrète de la réalité, en usant au besoin de la pression sur les personnes ou de la disqualification des personnes, puisqu'on va accuser, vous le savez bien, celles et ceux qui se plaignent de discrimination, de mensonges, de paranoïa, d'agressivité, etc. Alors, tout ça pour que, d'une certaine manière, le problème ne soit pas constitué. Détour un petit peu général, mais qui va m'amener à revenir à la circulaire de 2008 pour montrer comment ça se traduit dans cette affaire. C'est que les circulaires de 2008, puis de 2009, puis de 2010, hein, ça va se répéter dans les différentes circulaires de rentrée, le thème des discriminations. Premièrement, mais ça vous le savez, on en a déjà parlé depuis deux jours, ne vise exclusivement les élèves. C'est-à-dire que quand on dit discrimination, on ne pense pas du tout la responsabilité de l'institution, mais ce qui est appelé les discriminations entre élèves. Deuxième chose, c'est que dans le texte ministériel, vous savez, le ministère de l'Éducation nationale, comme les institutions en général, c'est-à-dire quand ils ont un nouveau thème, ils essayent de faire en sorte de l'inscrire dans les anciens cadres pour que ça bouge le moins possible les politiques. D'accord ? Et du coup, on reprend deux cadres thématiques qui préexistaient ou problématiques qui existaient précédemment. C'est d'abord le schéma institutionnel de la violence scolaire. La question des discriminations, je vais y revenir tout à l'heure, est articulée à la question des violences, et thème qui est surtout, comme le dit Jean-Paul Payet, une variation sur le thème majeur de la banlieue et des jeunes de génération issus de l'immigration. Deuxième thème dans lequel la circulaire de 2008 et les suivantes réarticulent finalement cette question de la discrimination, c'est en se référant, pas explicitement, mais en tout cas dans ses intentions politiques, et dans les schémas de réponse, hein, dans les recettes politiques qui sont proposées, dans le schéma de ce qu'était l'éducation antiraciste, qui s'est constituée à la fin des années 80 et surtout années 90 pour le ministère de l'Éducation nationale. Éducation antiraciste qui cible les jeunes supposés mal socialisés à l'idéologie nationale, et donc qui dévie le problème à la fois vers une logique moralisante et vers une logique ethnicisante. Et dernier élément, c'est que ces circulaires conduisent, au fond, à remettre en scène, même si c'est à bas bruit à ce moment-là, en 2008, à remettre en scène le discours des républicains, qui fait des grands combats moraux contre les discriminations, contre le racisme, le point d'ancrage d'une stratégie assez binaire, hein, qui est d'un côté l'appel toujours plus pressant à la communion nationale, de l'autre, une logique sécuritaire toujours renforcée. Et donc on a une opération, si vous voulez, de requalification d'une question égalitaire, en fait, dans une question prioritairement sécuritaire. Ces ambiguïtés ne seront, jusqu'au jour d'aujourd'hui, jamais levées. Suite à ce discours de 2008-2009 du ministère, On va assister à plusieurs éléments. Du point de vue organisationnel, c'est la reconversion de ce qui était depuis 2003 au sein de la Direction générale de l'enseignement scolaire, la cellule nationale de prévention des dérives communautaristes. Ça avait été instauré comme ça en 2003. Et c'est la même, on va pouvoir en reparler de cette histoire, et qui va être requalifiée, rebaptisée, tout simplement, avec le même personnel et sans feuille de route particulièrement nouvelle, qui va être rebaptisée en 2009 « Mission parité et lutte contre les discriminations », puis en 2012 « Prévention des discriminations et à égalité filles-garçons ». En 2010, est mis en place, vous le savez sans doute, un groupe de travail qui va générer un rapport public de la Direction générale d'enseignement scolaire qui s'appelle « Les discriminations à l'école ». C'est le titre du rapport. J'ai été invité à faire partie du groupe de travail que j'ai quitté après la première réunion. Et la première réunion était néanmoins pour moi très, très intéressante puisqu'elle a été ouverte par le directeur général de l'enseignement scolaire qui commençait bien évidemment par dire « c'est une question très très importante, merci de vous y atteler ». Et puis il expliquait pourquoi c'était particulièrement important pour le ministère, c'est qu'ils étaient à ce moment-là en train de faire une réforme du lycée qui passait très mal chez les professionnels. Il y avait beaucoup de résistance au sein de l'institution. Et du coup, travailler sur ces thèmes-là permettait de donner le change en mobilisant un thème social qui plus est parlait aux élèves et aux lycéens et permettait, ce qui était un des axes de la réforme, de remettre en avant les conseils de la vie lycéenne, la maison des lycéens, etc. C'est-à-dire d'envoyer un signal comme ça aux lycéens en disant « vous voyez, on s'occupe un petit peu de vous, du thème qui vous préoccupe, etc. » Donc vous voyez bien que les conditions d'arrivée même au fond de cette question-là et les modalités même d'exécution de ce rapport répondent à une stratégie politique de diversion plus qu'à toute autre chose. Alors, dernier point que je veux souligner dans cette affaire-là, et puis j'irai pas beaucoup plus loin en termes de retour historique, c'est que ce rapport, il a servi en fait à faire le passage de la question des discriminations à ce qui s'est appelé le school bullying, entendre le harcèlement entre élèves, et que ce rapport, il a effectivement servi le passage avec un jeu de passe-passe ou de cache-cache assez intéressant, c'est-à-dire que suite à ce rapport a été officiellement annoncée sur le site du ministère la mise en place d'un conseil scientifique contre les discriminations à l'école en 2011, et qui s'est en fait appelé, traduit littéralement, en conseil scientifique sur la sécurité à l'école. Et ce basculement-là a été justifié dans le rapport qui a été confié à Éric de Barbieu, qui est sorti en 2011, dans lequel lui-même justifie en disant il existe une autre forme de bullying, basée sur l'identité d'un groupe plutôt que sur des caractéristiques individuelles telles que l'homophobie, le sexisme, le racisme, la violence à l'encontre de groupes vulnérables comme les handicapés. Le lien entre harcèlement et discrimination doit donc être clairement affirmé. Voilà. Ce qui permet, dans la suite de passage, à passer à un principe d'action qui est principe numéro 5. Lutter contre le harcèlement, c'est lutter contre toutes les discriminations. Et hop, emballé, c'est pesé, je pourrais le dire, d'accord. On revient à un problème qui est scellé comme un problème des élèves, comme un problème de violence, et comme un problème supposé de violence interethnique en particulier, ou de violence de non-respect, des différences, etc. Voilà. Alors, pour terminer, depuis ce moment-là, et avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, il y a plusieurs grands changements institutionnels qu'il faut noter, on pourra en venir de la discussion. Il y a d'une part une très timide et pas très claire à mon sens du point de vue conceptuel tentative du côté du CNESCO, Conseil national d'évaluation du système scolaire, hein, si vous me c'est bien ça, dans son rapport notamment inégalité sociale et migratoire, qui arrive un petit peu du bout des lèvres ou du bout des doigts à parler du terme discrimination, mais avec une communication politique autour qui est assez problématique à mon sens, qui dit là où les zones d'éducation prioritaires devaient être la discrimination positive, en fait on irait vers la discrimination négative. On pourra y revenir, mais ce qui pose pour moi un problème de conceptualisation, littéralement, c'est-à-dire faire croire que la dite discrimination positive et la discrimination sont les deux faces d'une même pièce. En réalité, du point de vue des paradigmes d'action publique, pas du tout. Deuxième élément, c'est avec la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République, une stratégie du ministère de Najat Vallaud-Belkacem suite aux attentats de janvier 2015 qui met l'accent sur l'effectivité de l'égalité. Mais, j'ai envie de dire, d'une manière tellement subtile que, premièrement, c'est de passer totalement inaperçu des équipes du terrain. Donc, il y a une stratégie d'assouplissement et d'aller vers la question de l'égalité, hein, de produire l'égalité scolaire. Mais c'est passé inaperçu. Et deuxième chose, c'est dans un contexte de cadrage très sécuritaire. D'une part, puisque la République mobilisée contre le racisme et l'antisémitisme propose d'armer l'école pour transmettre et faire vivre les valeurs de la République. Et d'autre part, on est dans un contexte avec la montée en force de la DILCRA, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui va instrumentaliser la laïcité, l'antisémitisme, contester la problématique de l'islamophobie, dénoncer le communautarisme et simultanément l'islamo-gauchisme, etc. D'accord ? Donc on est dans un contexte de brouillage total dans cette affaire-là. Et du coup, je vais m'arrêter là, on me presse de m'arrêter là. On pourra discuter des peurs que je n'ai pas abordées, sur lesquelles j'arrivais, d'accord ? Je vous propose, parce qu'il me semble, pour le dire simplement en un mot, que ce qui est derrière, c'est des peurs immenses articulées à l'imaginaire à la fois républicain et à l'imaginaire scolaire. Donc à la question des types de rapports de pouvoir qui structurent et circulent dans l'école.
Merci Fabrice. Ben nous voilà avec 12 minutes ou 13 de débat. On a terminé, vous avez vu l'exposé de Manon comme l'exposé de Fabrice sur la question de la peur sécuritaire liée au radicalisme. On ne l'a pas encore évoqué dans ce colloque, c'est bien qu'on y arrive parce que c'est certain que c'est totalement articulé avec... la question de la lutte contre le racisme aujourd'hui, hein, ça interpénètre très fort. Mais je ne voudrais pas induire des questions. Voilà, une question.
Bonjour, justement, j'aimerais rebondir sur cette question. Fabrice, tu n'as pas terminé justement sur les peurs. Quelles sont ces peurs immenses ?
Exposé. Merci de me donner du rap de temps, Anna. Alors, peut-être ce qu'il faut que je dise, c'est que...
Et puis on donnera la parole sur ce même sujet aux deux qui ont travaillé sur la question de la déségrégation et des peurs que ça soulève. Hein.
Alors, ce que je dois dire en préalable, peut-être, c'est que j'ai la chance, dans mon travail de sociologue public, en fait, une perspective de sociologie publique, qui m'amène à circuler en fait, entre des espaces et des échelles extrêmement variées, de la classe à l'établissement, du REP à l'académie, du ministère à l'inspection générale, à travers mes différents travaux, d'avoir rencontré, exploré plusieurs dimensions. Et du coup, je le dis parce que ça m'a amené à voir que cette question elle se retrouve à toutes les échelles organisationnelles de l'institution scolaire. Et elle est plus condensée, encore évidemment, au niveau des lieux de pouvoir. Hein, on a encore plus peur au ministère, à l'inspection générale ou dans les rectorats, etc. D'accord ? Mais on a peur aussi sur le terrain, dans les classes, etc. Donc on a une problématique qui circule et qui, à mon avis, est assez structurante. Ce que je voulais dire par là, c'est que et c'est le mot même d'une des actrices que j'avais rencontrée qui disait, en fait, elle parlait, elle, du ministère, ils ont peur de leur ombre. Ils ont peur de leur ombre. Et il me semble que cette phrase est en fait vraiment à prendre très très au sérieux. Je pense que c'est des fantômes, en fait. Hein, c'est des ombres ou des fantômes dont on a peur dans cette affaire-là. C'est-à-dire que... je pense que cette peur repose sur au moins deux ordres de problèmes. D'abord, les rapports de pouvoir institutionnels. Le ministère de l'Éducation nationale est historiquement très centralisé. Il l'est de fait de moins en moins dans la réalité des politiques, on le sait, d'accord ? Mais néanmoins, cette logique de la centralisation demeure très structurante de l'imaginaire. Elle se traduit, par exemple, en 2013, lorsqu'en 2013 nous avions travaillé sur les rapports dits de refondation de la politique d'intégration, où nous avions proposé une politique offensive sur la question des discriminations et du racisme, elle s'est traduite par, face à la polémique, une chasse aux sorcières au sein du ministère. Et donc cette situation se reproduit, c'est-à-dire qu'on a des opérations d'oppression hein, policière à l'interne du ministère, qui fait que les acteurs en place ont peur, sont systématiquement dans l'autocensure vis-à-vis de cette question. Et pourtant, ce que m'a amené à moi, ma circulation, c'est que la plupart, enfin beaucoup en tout cas de ceux que je rencontre, sont convaincus qu'il faudrait y aller sur ces questions-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont très clairs avec les concepts, etc., mais ils sont convaincus que ça va leur péter à la figure, d'accord, s'ils n'y vont pas. Et néanmoins, on a une logique de violence qui se répète dans l'organisation, qui interdit d'aller sur ces questions parce qu'elles sont politiquement jugées explosives. Et ce qui est articulé à ça, c'est pour moi un deuxième élément qui est vraiment l'imaginaire de l'institution, c'est lui qui est mobilisé là-dedans, qui va se traduire notamment, enfin, par deux types de discours, c'est notamment le discours dit républicain, hein. On va chaque fois ramener la question de l'école à la République, et ce discours-là est activé autant à l'intérieur de l'école qu'à l'extérieur. À l'intérieur, c'est notamment, par exemple, dans les ESPE, dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, qui sont des lieux, sur ce plan aussi, d'accueil d'un conservatisme assez important. Je ne veux pas le résumer à ça, hein, mais c'est-à-dire qui fait qu'à l'intérieur de ces écoles, il y a une tension très forte sur quel est le type de formation à produire. D'accord ? Entre les tenants du plan républicain et les tenants, au contraire, des rapports sociaux ou d'un travail sur la réalité concrète de l'école. Deuxième élément de cet imaginaire, et à mon avis il est vraiment très lié au rapport de pouvoir, c'est que les enseignants ont peur que si on travaille la question du racisme et des discriminations scolaires, les élèves ne croient plus à l'école. C'est-à-dire que s'effondre, au fond, ce qui fonde la confiance possible du travail. Voilà.
Merci Fabrice, on va donner la parole à nos jeunes collègues. Et moi, ça me donne quand même aussi l'occasion en faisant cette transition, de passer du national au local et de dire que quand le national, comme ça, est dans le marquage et le contre-marquage, le démarquage, etc., et la peur, cela donne éventuellement de l'espace dans un ministère qui est très centralisé du point de vue organisationnel, mais avec une grande dispersion des pouvoirs. Hein. Le ministre a finalement peu de pouvoir, étant contrôlé par des tas de forces et de contre-forces. Ça donne du pouvoir à des initiatives locales. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne à Nîmes et à Montpellier. On a vu que c'était assez disparate, puisque à Montpellier, on a eu une solution finalement qui a prévalu majoritairement scolaire, avec une requalification de l'ordre scolaire, de l'offre scolaire, pardon. Et puis, à Nîmes, plutôt un choix d'effacer l'abcès et du coup de le transférer dans des collèges qui ont été, eux, à la manœuvre, hein, pour réagir. Alors, Roman, d'abord.
Ça concerne plutôt le cas de Nîmes, en ce qui concerne les peurs dont vous parliez. Vous parliez des acteurs.
Mais vos peurs à vous, donc, effacées.
À Montpellier, on va dire que la configuration politique, comme on a essayé de l'esquisser, n'est pas la même. Et on peut estimer que la présence notamment de la gauche au département et à la ville, bon, même si c'est la notion de gauche, c'est discutable, a favorisé finalement la mise en place de ce projet de mixité scolaire, puisqu'il y a un autre facteur qui intervient, c'est l'intérêt partagé par différentes institutions. Bon, je n'aurai pas le temps de développer ici. Mais en ce qui concerne le cas de Nîmes, ce qui apparaît dans notre terrain et qui recoupe avec ce que vous disiez, c'est que, bon, évidemment, ces peurs sont partagées par les parents d'élèves, par les populations, mais ce qui est peut-être plus problématique, c'est que ces peurs-là, en off, elles sont partagées, elles sont évoquées par les enseignants. Des enseignants qui expliquent qu'ils ont assez donné un ré plus, dans les mouvements syndicalistes également, au-delà des discours qui vont prétexter différentes raisons. Je voulais terminer en disant que tu m'as coupé. Oui, donc y compris les enseignants refusent la mixité scolaire et la fermeture des établissements, même quand ils ne sont pas concernés directement. Donc c'est pour ça qu'on a voulu axer les réactions du côté de Nîmes sur au sein des lycées dits d'accueil, c'est-à-dire ceux qui étaient concernés par la circulation des effectifs et des écoliers.
Roman, à Montpellier, le nouvel établissement avec sa nouvelle offre scolaire est ouvert et ça marche ?
Ça marche. Je pense que si on demandait aux militantes, elles ne seraient pas tout à fait satisfaites par les résultats, mais il y a des résultats chiffrés qui apparaissent, c'est-à-dire des nouvelles inscriptions. Donc déjà, ce chiffre de 300 inscrits sur 800 possibles et moins criant aujourd'hui. On n'a pas les chiffres exacts pour la rentrée 2018, mais il y a des progrès, il y a des circulations, des néo-arrivants dans le collège du quartier concerné.
D'accord, c'est à suivre donc.
Voilà, exactement,
alors,
c'est un travail qui est en cours.
Si je peux me permettre juste de rebondir sur la réflexion, c'est sur le pourquoi de la peur. Je pense que ce qu'il y a beaucoup à l'origine, parce que j'ai travaillé dans l'établissement du Petit Bar pendant 5 ans, Et c'est comme ça fait référence à l'intervention d'hier, c'est que ce qu'on m'a dit quand j'y suis arrivée, c'est oh, tu vas te faire caillasser. Enfin, j'ai entendu tout et n'importe quoi. Et le jour où je suis arrivée au collège, en fait, c'était un collège complètement normal, tout ce qu'il y a de normal. Et finalement, sur Nîmes, c'est la même question. C'est de la réputation. Donc, je ne sais pas exactement comment ça se construit. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à développer. De quoi ça part et comment c'est colporté. Enfin, voilà, c'est du bouche à oreille pour les parents d'élèves. Et ça, je pense que c'est une variable, je ne saurais pas la définir, mais qui est vraiment exploitée parce que ça part de ça, de fantasmes. En fait, c'est même des choses qui n'ont jamais existé et qui circulent et qui font que voilà, les tensions et que les collèges sont évités, alors même que l'offre éducative est bonne, qu'il n'y a aucune raison, ou même les résultats de choses très concrètes comme les résultats au DNB. Enfin voilà, tout ça, c'est voilà, pour la raison et la peur.
D'autres questions ? Marguerite ?
Oui, bonjour. Arnaud Richard, je suis CPE, donc conseiller principal d'éducation dans un lycée professionnel en ZSP, donc zone de sécurité prioritaire dans le Val-de-Marne. Zone de sécurité prioritaire qui va devenir prochainement les quartiers de reconquête républicaine. J'arrive simplement ce matin. Alors j'ai peut-être raté la réponse à ma question. Concernant le racisme et les discriminations raciales de l'école et à l'université, je souhaiterais savoir si elle vise, cette question vise essentiellement les élèves ou s'il s'agit également des discriminations et du racisme dont peuvent être victimes les personnels de l'éducation nationale ou du ministère de l'enseignement supérieur. Il me semble qu'il y a quelques mois, un syndicat en région parisienne, Sud 93 pour ne pas le nommer, avait justement attiré l'attention des médias lorsqu'il avait invité les acteurs de l'éducation nationale autour d'une question relative au racisme. Et ça avait fait beaucoup de bruit.
Merci. Bon, ce n'est pas forcément une question. Marguerite. Ah si ?
Mais c'est peut-être une question sur le colloque et sur ce qui s'est passé les deux jours avant, j'entendais aussi.
Hein. Non, mais je la pose après, si vous voulez.
Non, vas-y, parce qu'on okay. On est pressé maintenant.
Hein. Ma question est plus en aval, finalement, des peurs. C'est-à-dire que je crois qu'on commence à avoir des pistes sur ces peurs. Enfin, on les identifie relativement bien. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on en fait pour justement amener à ce qu'elles puissent être dépassées.
C'est une question qui s'adresse à la salle, mais on va... je pense que Marie, dans sa conférence, va peut-être... Non. Alors, qui souhaite répondre ? J'ai l'impression que tout le monde peut essayer de répondre, ou bien on peut dire que c'est complexe.
Sur Nîmes, la solution proposée du coup par le département, à l'initiative, c'est lui qui est compétent sur la sectorisation. La question, bon, je l'ai évoquée, sur l'enjeu sécuritaire, etc., qui était aussi le moyen pour la gauche d'obtenir le consensus sur la nécessité de faire cette réforme. Pour les élus qui ont des convictions fortes, etc., sur la question, voilà, sur le vivre ensemble, toutes ces choses-là, solutionner la peur, ce serait par justement faire rencontrer des gens qui ne se parlent pas. Après, c'est vrai que d'entretiens et de réunions avec les parents d'élèves du quartier qui a été concerné par la fermeture, ce qu'ils disaient, c'est que non seulement ils se sentaient à l'abandon parce que le quartier, il y a beaucoup de structures type sécurité sociale et tout qui ont quitté le quartier, en fait. Donc ils se sentaient à l'abandon pour ça. Et aussi parce que finalement, il n'y avait pas de communication entre... Il y a beaucoup de parents qui disaient qu'ils découvraient le collège, qu'ils découvraient la vie lycéenne, etc., pardon, quand ils arrivaient au lycée, en fait. Que finalement, quand ils étaient au collège, ils vivaient dans l'entre-soi. Mais en fait, les collèges du centre-ville, c'est la même chose. Ils vivent dans l'entre-soi aussi. Et donc, je pense que, en tout cas, la solution qui a été évoquée par le département, moi, j'en ai pas. Mais c'est de faire vivre ensemble des gens qui ne se parlent pas. Après, je suis pas convaincue que ça apaise les peurs. Mais déjà, c'est commencer à faire quelque chose. Pourquoi pas.
Abdelahi ? Et puis il y aura aussi... Mais ça sera les dernières questions, parce que nous sommes déjà en dépassement. Donc Abdelahi et Géraldine, vos deux questions, puis on répond.
Bonjour, j'ai une question pour Fabrice. Compte tenu de tout le travail que tu as mené depuis des années et des années sur la discrimination à l'école, et le fait que, comme tu l'as dit, tu circules dans des espaces qui sont très différents, mais sur universitaire, mais aussi voilà, institutionnel, etc., il me semble qu'il y a une question vraiment importante et qui un peu structure tout le colloque aussi, dans la manière dont il a été organisé, etc., c'est celle de la réception par les acteurs institutionnels de l'éducation des recherches sur les discriminations et le racisme à l'école. Et on a l'impression qu'on a, en t'écoutant, c'est que tu fais face à un mur, qu'il y a cette forme de dénégation, donc tu as parlé de logique de l'inaction. Du coup, comment est-ce que toi tu vois les choses pour l'avenir, quoi, comment est-ce qu'en tant que sociologue, ce type de travaux puisse avoir un impact en termes de politique publique, quoi. Donc, je sais que c'est une question un peu générale et sûrement compliquée, mais avoir ton point de vue, je pense, serait intéressant.
Alors, on va poser la question de Géraldine.
Oui, moi aussi j'ai une question générale et un peu compliquée. On a vu dans ce colloque, notamment à travers les conférences de Philomena Essed et de Calwan Bhopal, un point de vue un peu différent, je crois, puisqu'elles soulignaient moins toutes les deux en fait, les peurs, en tout cas dans leur contexte, que finalement, à travers cette idée de privilège blanc, l'idée qu'il y a certains groupes qui cherchent simplement à maintenir leur avantage. Voilà, je voulais vous poser la question à tous les trois, mais c'est une interprétation très générale, très théorique. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il s'agit là de peur ou simplement d'une lutte des places tout à fait classique ? Et peut-être que c'est articulé, que ce n'est pas exclusif, mais qu'en pensez-vous ?
Merci. Bah, deux belles questions pour terminer, mais malheureusement, on n'a qu'une minute pour les traiter. C'est des questions majeures, évidemment, de notre colloque.
Bon, deux, trois mots peut-être. Juste pour vous dire sur le colloque, mais on y reviendra, il ne portait pas uniquement sur les élèves et il n'est pas l'entrée par les publics. Il est l'entrée par le problème. Hein. Et le problème, de fait, concerne la manière dont les élèves sont racisés, mais aussi les professionnels sont racisés. Voilà. Donc ça a traversé. Et celui d'éducation était là hier après-midi, pour, vous le savez probablement, pour aussi discuter de cette expérience-là. Alors, deux mots, il me semble que les trois questions, enfin, de mon point de vue, s'articulent ou renvoient un peu à la même chose. Je ne le poserai pas comme un mur, parce que ce que je disais tout à l'heure, et c'est ça que pour moi je entends aussi dans la question de la peur, c'est qu'il y a une fluidité. Donc nous avons quelque chose qui se recompose selon les situations. Et qu'il me paraît que pour pouvoir travailler ces questions-là, on y reviendra probablement sur la table ronde, hein, sur l'action publique. Je pense que pour pouvoir travailler et traverser, dépasser un certain nombre de ces peurs, les remettre en perspective, il faut ancrer les choses dans le travail. C'est-à-dire, c'est quoi le travail des gens ? C'est quoi leur activité ? C'est quoi ? Parce que je pense que ces peurs ont une résonance ou une partie professionnelle, qui est très ancrée professionnellement. La difficulté, c'est que jamais on a de commande, et en tout cas, il est très difficile d'ouvrir cette interrogation sur le travail avec les agents du ministère, avec les agents de l'inspection générale. C'est-à-dire, ils parlent d'un truc comme si c'était l'objet de leur travail, mais du coup, jamais de leur travail. Alors, on en parle en off, on en parle, j'en ai parlé avec des agents du ministère, en off de ces réunions, etc., mais il n'y a pas la légitimité pour ouvrir des espaces pour réfléchir à c'est quoi travailler quand on est au ministère et quand on doit produire ses politiques. Et ça, je pense que c'est un problème absolument majeur auquel nous avons affaire, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est un mur parce qu'on n'a pas accès, en fait, à un certain niveau de la réalité. Et si j'insiste sur ça, c'est parce qu'à mon avis, tu as raison, absolument, Géraldine, c'est-à-dire il y a dans cette affaire la question du privilège blanc, mais la question, c'est aussi par où il passe et les gens ne sont pas dans l'idée qu'ils doivent défendre un privilège. Ils n'ont même pas conscience du privilège. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'ils défendent quand ils s'opposent à la question de la discrimination ? Et si on vient sur la question professionnelle, ce qui est, à mon avis, tout à fait intéressant, c'est qu'on voit ce qu'ils défendent, c'est effectivement, ça va se traduire sous la forme du rapport de pouvoir. C'est-à-dire, ils défendent la primauté de l'enseignant par rapport à l'élève, par exemple. Ils défendent ses privilèges sous cet angle-là. Et que là, ça me paraît être un point auquel s'articule la question du privilège blanc. Et je vais juste terminer sur ça, c'est-à-dire que ça a une résonance pour moi tout à fait, de nature tout à fait conceptuelle et paradigmatique, hein, c'est que c'est un vrai problème, à mon sens, d'imaginer ou de penser le racisme et l'indiscrétion comme étant exogène ou un supplément ou quelque chose qui viendrait se greffer en tant que tel à l'école. Je pense qu'il il est structurellement articulé, emboîté dans la question des rapports de pouvoir qui structurent le travail.
On va s'arrêter là, si vous voulez, sans avoir bien entendu fermé la question. Mais le temps nous presse, on va donc passer à la conférence de Marie.